Éthique religieuse par le Père Philippe à Saint-Joudert, le 11 mai 90.
Nous allons continuer cette réflexion, cette analyse philosophique sur les vertus. Les vertus religieuses peuvent-elles naître chez une personne qui n'a pas les vertus cardinales? Un phénomène, être religieuse sans les cardinaux. Les vertus cardinales sont les vertus fondamentales. Je crois qu'on ne peut pas avoir un développement des vertus religieuses sans les vertus cardinales, parce que les vertus sont connexes. Il y a une connexion dans les vertus. C'est une organisation éthique, morale, qui se tient. Alors, évidemment, on a des dispositions plus ou moins forte vis-à-vis des vertus cardinales. Vous voyez, les conséquences du péché originel, dont nous pouvons parler en éthique chrétienne, qu'on ne parle pas en éthique religieuse, mettent un accent sur la concupiscence selon la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie. Et donc, font que les vertus cardinales sont particulièrement difficiles à guérir. Tempérance, force, justice, tempérance. Les vertus religieuses, selon l'ordre que nous prenons, qui est un ordre génétique, mais non pas un ordre de nature, puisqu'on est en philosophie humaine, viennent après, normalement. Mais aussi, elles peuvent venir avant. Ça, c'est sûr. De tous les convertis. Quand un alcoolique se convertit, ça arrive. Ils ont une propension à ça. Quand un alcoolique se convertit, il n'a pas beaucoup de vertus de tempérance. Mais il peut avoir un cœur d'or. Merveilleux pour Dieu. Et dès qu'on parle de Dieu, il pleure. Ça se voit, ça. J'ai vu ça. Des alcooliques très très pieux. Alors, la vertu de tempérance, c'est à l'état très 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 embryonnaire. Et l'adoration a un développement qui peut aller très loin. Et ils peuvent être dans une docilité très très grande vis-à-vis de l'obéissance. Ça se voit, ces jours-là, vous voyez. Alors, c'est là le point de vue très délicat. Il y a les dispositions des vertus qui font partie du point de vue psychologique. Puis les vertus proprement dites. Les vertus vertus sont connexes, mais pas les dispositions. Alors c'est pour ça que, psychologiquement, on pourrait dire, mais oui, voyez bien, il a des vertus religieuses très développées, et les vertus cardinales ne le sont pas. Au point de vue des dispositions, c'est très juste. Il n'y a pas nécessairement de connexion au niveau des dispositions. Mais il y a une connexion du côté de la finalité. Vous voyez ? C'est pour ça que les vertus religieuses ne peuvent être acquises que si elles vertus cardinales. Mais les dispositions des vertus religieuses ne sont pas les mêmes que celles des vertus cardinales. De sorte qu'on peut avoir beaucoup de facilité à une attitude religieuse et beaucoup de difficulté à l'attitude des vertus cardinales. Si on demandait votre avis et que vous deviez faire une ouverture du cœur, vous diriez, j'en suis sûr, certains, telles difficultés parmi les vertus cardinales, beaucoup moins du côté des vertus religieuses, des vertus religieuses. Ça peut très bien exister. Et donc, distinguons bien dans ce problème ce que nous disons au point de vue philosophique. Les vertus impliquent une connexion, ce qu'on verra au terme. Connexion dans la prudence et l'amour d'amitié. Connexion dans le point de vue de la vertu, de religion. Connexion au point de vue chrétien dans la vie, dans la vertu de charité. Donc oui, distinguons bien la conscience que nous avons des vertus et leur disposition et la vertu comme telle. La vertu comme telle, il y a une connexion. Si j'ai les vertus religieuses, j'ai les vertus cardinales. Mais ça ne veut pas dire que dans ma disposition, ce soit aussi facile de vivre des vertus cardinales que des vertus religieuses. L'autorité par rapport au fort interne n'exige-t-elle pas l'amitié ? Attends, faisons attention, hein. Je suis en éthique religieuse. Qu'est-ce que c'est que fort interne ? Distinction, ça, qui sont des distinctions chrétiennes. En éthique religieuse. Donc, je ne parle pas du point de vue de la grâce. Nous avions vu le point de vue de l'adoration. De vue intérieur. Y a-t-il la distinction du fort interne et du fort externe au niveau purement éthique religieux ? C'est une question qu'on devrait se poser. Oui, elle est posée par l'interrogation ici. Point de vue purement philosophique. Puis-je parler en pur philosophe de l'aspect fort interne et fort externe ? Et comment je devrais en parler ? Est-ce que cette distinction s'appuie sur les vertus théologales ou est-ce qu'elle s'appuie sur la vertu de religion ? C'est une très bonne question. Et c'est pas si commode que ça de répondre. Au point de vue de la foi, c'est très net. Parce que de fait, l'Église existe comme communauté. Alors, il y a l'intégration dans la communauté, et puis il y a le point de vue de Dieu. La charité fraternelle et la charité à l'égard de Dieu sont une, spécifiquement une. De leur objet. Elles sont deux exercices différents. Et dans ces deux exercices différents, il peut y avoir deux autorités différentes. l'autorité de fort interne, l'autorité de fort externe. Au point de vue religieuse, purement religieuse, qu'est-ce qu'il y a comme vie commune? Vous allez me dire, il y a la liturgie. Je peux concevoir une vie commune religieuse. Ça existe dans toutes les traditions religieuses. Dans toutes les traditions religieuses, il y a bien le point de vue d'une communauté religieuse qui repose sur quoi? Sur l'adoration, sur la liturgie. Les bouddhistes, il y a des couvents. Il y a une liturgie. L'autorité, qu'est-ce qu'elle est exactement? Sur quoi repose-t-elle? Et sur quoi fonctionne-t-elle? Elle repose sur la prudence. On reconnaît que des hommes plus avancés dans l'expérience religieuse peuvent nous aider. L'autorité repose sur la prudence. Il faut du temps avant de devenir une âme religieuse. Alors on aime bien de s'appuyer sur les anciens. Et l'ancienneté, alors, jouerait un rôle très grand. Et c'est du reste, c'est ce qu'on voit dans toutes les communautés religieuses. C'est que l'ancienneté, les anciens, ont comme une autorité, un privilège particulier d'exercer leur autorité. Ça doit les scandaliser constamment de voir dans la vie chrétienne des très jeunes qui exercent autorité. Ça doit les scandaliser. Les bonzes. Parce que normalement, au plan religieux, il faut une certaine ancienne sans l'expérience religieuse. Mais je peux concevoir une autorité justement dans cette compétence à l'expérience au point de vue prudentiel. Alors, à ce point de vue-là, dès qu'il y a communauté, il y a tout de suite fort interne et fort externe. Alors, l'autorité par rapport au fort interne n'existe-t-elle pas l'amitié? Vous voyez? Parce que, quelle serait l'autorité du fort interne au plan purement religieux? Je crois que c'est Dieu. Je crois. Ça ne peut être que Dieu. Il y a une autorité de fort externe pour organiser la vie commune. Cette autorité. et la connaissance de sa finalité. Si donc, au point de vue strictement humain, l'autorité des parents sur leurs enfants ne repose pas sur la génération en elle-même, mais sur leur amour pour leur enfant et leur connaissance de leur finalité. Je crois que l'autorité au sens fort n'apparaît qu'avec le point de vue de la création. Je crois. Dieu exerce sur nous une autorité. Les parents exercent en fonction de leur prudence. Alors, vous voyez, des parents qui n'ont aucune prudence. Et ça existe, là. Qu'est-ce qui va déterminer que les parents sont capables prenez ça comme fait, vous pourrez dire que les parents ont normalement une expérience plus grande, alors doivent aider à l'orientation de leurs enfants en les éduquant. Mais ce n'est pas une autorité au sens absolu, en dehors de l'aspect religieux. Découvrir et découvrir. à une stabilité. C'est toujours ce que prend Saint-Thomas, la stabilité. Parce que l'habitus repose sur des principes. Principes propres. Tandis que la disposition se prend toujours du côté matériel. Ex parte materiae, comme dit Saint-Thomas. Ça c'est sûr, en éthique chrétienne. En éthique chrétienne, je suis d'accord. Mais c'est pas la question ici, c'est par rapport, est-ce qu'au fond, je présume que c'est cette question-là, c'est de revenir un peu sur ce que nous avions dit. Et je comprends très bien, c'est la question demeure ouverte. Est-ce que dans une éthique purement d'amitié, pas chrétienne, ni religieuse, et l'époux s'aiment. Le mari et la femme s'aiment. Ils ont une véritable amitié. Ils ont un amour d'amitié pour leurs enfants. Est-ce que c'est pas suffisant pour engendrer l'obéissance? Je présume que c'est ça la question. Moi, ah oui, mais c'est avant, attendez. Non, là, c'est une autre question. Là. C'était avant. L'autorité par rapport au fort interne n'exige-t-elle pas l'amitié? Alors, c'est pour ça que je me dis, au point de vue éthique religieuse, qu'est-ce que c'est que le fort interne? Bien, je dis, au point de vue proprement éthique religieuse, pour moi, le fort interne, c'est la dépendance à l'égard de Dieu. Dans une éthique humaine, oui, mais faisons attention. L'ami, quand il communique ses secrets à son ami, il n'exerce pas l'autorité sur lui. C'est pas parce que je communique à un ami un secret que j'ai une autorité sur lui. Non. Je lui ai communiqué amicalement. Et l'union qui existe entre nous est plus que l'union entre autorité et celui qui est soumis. C'est un autre type. De sorte que pour moi, l'amour d'amitié, c'est d'un fort interne. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas d'autorité. Or, on parle de l'autorité de fort interne. Vous voyez ? C'est à cause de ça que je ne suis pas d'accord. À cause de l'autorité de votre interne. Il y a un fort interne, des secrets, tout à fait d'accord, mais sans autorité, au niveau amitié. Vous voyez, quand vous communiquez un secret à un ami, vous lui dites, sois fidèle, garde ce secret. Si l'ami trahit, on dit, il trahit. On ne dit pas qu'il désobéit. On dit, il trahit. Il communique à un autre le secret. La trahison est pire qu'une désobéissance. Puisque c'est tuer l'amour. Et vous dites, l'ami trahit. Vous lui aviez confié un secret, il n'a pas le droit d'en parler tant que vous ne lui permettez pas. Il est tenu au secret. Et le secret est plus que l'obéissance pour moi. Vous voyez, ce qu'on dit au niveau de l'amour d'amitié. Et vous voyez. Oui.
Est-ce que l'autorité religieuse repose sur le fait qu'on soit des créatures ou le fait qu'on soit des créatures qui ne nous ont encore rejoint leur fin?
L'autorité religieuse, ce fondement d'autorité religieuse repose sur le créateur de notre âme. Dieu nous crée dans sa sagesse. Et il y a la providence. Et il nous conduit. Donc il est capable de nous conduire et de nous conduire dans sa prudence. Bon, l'autorité religieuse repose là-dessus. Et l'obéissance religieuse, c'est accepter cette autorité et coopérer avec cette autorité. C'est ça l'autorité religieuse. Alors, votre question, c'est l'autorité religieuse est-elle nécessaire? Oui, parce que je suis une créature. Vous voyez? C'est la nécessité de l'autorité religieuse qui n'est pas l'autorité religieuse. Il y a deux choses, deux problèmes différents. Qu'est-ce que c'est que l'autorité religieuse? Pourquoi la nécessité de l'autorité religieuse? Vous voyez? La nécessité de l'autorité religieuse, c'est parce que je suis une créature qui doit atteindre ma fin. Ça, c'est la nécessité de l'autorité religieuse. Mais l'autorité religieuse repose sur le Créateur qui m'a créé avec sagesse et par amour. Oui.
Pour les enfants, la paternité et la maternité ne se découvrir que dans un point de vue religieux, alors.
Je crois.
Sinon,
je crois.
Ils sont un peu comme orphelins, même si...
Mais c'est... Ils sont orphelins de Dieu. Être orphelin de Dieu nous coupe de toute autorité. Vous voyez, au plan purement philosophique, j'avoue que j'ai jamais beaucoup réfléchi là-dessus, parce que personne ne réfléchit là-dessus. Parce qu'il faut creuser ce que c'est que l'autorité, l'éthique. On a tout confondu, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on confond tout, on ne voit plus rien. Alors, si on prend les trois plans de l'éthique. L'éthique naturelle, fondamentalement naturelle. Une éthique d'amour, d'amitié. Une éthique religieuse et une éthique chrétienne. Je suis obligé, philosophiquement, de voir qu'est-ce que l'éthique religieuse apporte de propre comparativement à une éthique fondamentalement humaine. Et il me semble que l'éthique religieuse apporte la vertu d'obéissance. Voilà. La vertu d'obéissance ne peut naître que dans une éthique religieuse. Pourquoi? Pour que la vertu d'obéissance existe, il faut que l'autorité apparaisse. Est-ce que, en éthique fondamentalement humaine, reposant sur l'amour d'amitié, y a-t-il autorité? Non. Il n'y a que des autorités de compétence, qui n'est pas une véritable autorité. Je te délègue l'autorité parce que tu es plus compétent que moi. C'est tout à fait utile, ça. C'est pas l'autorité au sens rigoureux. Et donc, l'obéissance ne peut pas naître. Alors, évidemment, la grosse objection, hein, le gros cheval de l'amour, hein, qui vient, mais il peut y avoir une philosophie de la famille au niveau de l'éthique purement humaine. Je dis oui. La famille, c'est le lieu d'éducation. Donc, il doit y avoir une éducation. S'il y a éducation, il doit y avoir autorité et obéissance. Et voilà l'objection. C'est la grosse objection. lié, enfin, au journal Famille Chrétienne. Alors là, il y aurait des pétards. Bien. On verrait ce que le directeur dirait. Ce serait amusant. Alors, est-ce que de fait, je peux parler d'une éducation humaine en fonction d'une éthique uniquement, fondamentalement humaine? Eh bien, je crois que non. Je crois que l'éducation repose sur le point de vue religieux. Une véritable éducation. Évidemment, c'est une torpille énorme au laïc. Ce qu'on appelle l'éducation laïque. C'est une torpille énorme. Et c'est un fait, voulez-vous. Regardez. Dès que le point de vue religieux n'est plus présent, il n'y a plus d'éducation possible. Il n'y a plus d'obéissance possible. Alors on doit augmenter les gendarmes. Et les gendarmes n'augmentent pas l'autorité. C'est un pouvoir. Alors, j'obéis parce que je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas la vertu. L'obéissance de la douane, on va me faire prendre. C'est des dispositions. C'est tout. Et quand je suis très habile, j'arrive. Puisque Dieu peut déléguer son autorité. Oui. Dans l'éthique religieuse. Non, mais c'est. Vous voyez ce que je veux dire, c'est justement savoir si Dieu peut déléguer son autorité sans la foi. Est-ce que les traditions religieuses suffisent? Oui, tous les problèmes qui sont là sous-jacents. Si Dieu délègue son autorité, il peut y avoir du fort interne. Si Dieu ne délègue pas son autorité, il ne peut pas y avoir de fort interne. Alors, il peut y avoir un règlement au niveau fort externe. Nous décrétons vivre ensemble notre vie religieuse. Nous décrétons ça. Et tous les 3 mois, on se réunit pour savoir si le règlement est bien. Bon, on a décrété ça. Mais celui qui exerce l'autorité, il exerce une autorité en vue du bien commun. Mais il n'exerce pas une autorité de fort interne. Est-ce que les bons, quand ils vivent leur vie religieuse, est-ce que de fait, est-ce qu'il y a une autorité? Ou simplement une délégation? Poser tous ces problèmes au point de vue philosophique. Et si je ne les pose pas, donc je ne veux pas voir clair, alors je veux voir clair, moi. Je vais aller jusqu'au bout, essayer de comprendre ça, et comprendre à quel moment la vertu d'obéissance peut naître en moi. La vertu d'obéissance ne peut naître que quand il y a autorité. Urgente, mais c'est bien d'y réfléchir parce que ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Savoir à quel moment la vertu d'obéissance apparaît. Nous concluons, elle n'apparaît qu'en éthique religieuse, à partir de l'adoration vis-à-vis du Créateur, qui est la première autorité. Les autres autorités, je les reconnais dans la lumière de cela. Et c'est pour ça que l'autorité est paternelle.